Bonjour, ici François Nardou de Montcuq, depuis les studios du Boulevard. Toujours dans le cadre de l'émission Un brin d'histoire, en occitan, une ramelette d'historio, ou d'histori si vous préférez. En cette saison automnale, qui est aussi non seulement celle des vendanges, mais des labours, l'idée m'est venue à propos d'une chanson que l'on connaît bien, Quand l'oubouillé ben de laura, quand l'oubouillé ben de laura, planto chunagugliado, troppo s'affenno al prep del foc, tristo desconsolado. Et la chanson s'achève ainsi après plusieurs versets, plusieurs couplets. Et lui rumius que passaran, diran calo es morto a qui, et lui begis que responderan, a cos la pauro zuano, es montado cap al cel ambe sai crabos. Quand le bouvier vient de labourer, il plante, il fiche dans le sol son aiguillon et trouve son épouse auprès du feu, triste, desconsolée, au sens cathare du terme. Et à la fin, la chanson nous dit « Et les pèlerins qui passeront diront alors « Quelle est celle qui est morte ici ?» Et les voisins répondront « C'est la pauvre Jeanne, fille de Raymond VII de Toulouse, montée au ciel avec ses chèvres. » La chanson s'achevant par le fameux, si vous voulez, le cri « A-E-I-O-U » dont on se demande bien qu'est-ce qu'il pouvait signifier. Nous sommes donc en pleine saison des labourages, illustré au XIXe siècle par les fameux tableaux de Rosa Bonheur et ses labourages en hivernais. On pourrait penser à labourage et pâturage de Sully, mais en feuilletant un fascicule fort intéressant, je ne veux pas parler de Élie Lolmay, de Montcuq et son canton, qu'il faudrait quand même regarder et feuilleter. C'est en feuilletant un ouvrage, un fascicule épais, consacré à Lozère et à son canton, et rédigé sous la direction de Christian-Pierre Bédel et des habitants du canton de Lozère, avec préface de Jean-Michel Baillet, collection Alcantou, que page 214, 215 et 216, j'ai trouvé d'excellents textes et photos illustrant le sujet. Alors, en occitan, labouré se dit laura. Or, laura vient du latin laborare, qui signifie en fait travailler. Alors que, notre occitan travaglia et le français travailler, viennent d'une forme latine tout à fait différente, tripaliare, qui signifie attaché à trois bâtons, attaché à trois pieux. Ça n'a donc rien à voir. Ça désigne en fait le tripalium latin, désigne notre trabal occitan, l'installation nécessaire pour ferrer des bœufs. Dans son fameux ouvrage indispensable et fondamental, mais de nos jours remis en question sur certains points par des historiens et géographes plus jeunes, Xavier de Plagnol, dans sa géographie historique de la France, remise en question dans plusieurs articles publiés sous la direction de Jean Guilaine aux éditions Armand Collin, sous le titre « Pour une archéologie agraire », Xavier de Plagnol met en valeur le fait que, disons, le continent européen en général, et la France en particulier, se caractérise par le fait que, au sud d'une ligne ondulante qui part de l'embouchure de la Loire et se perd vers les Alpes, au sud de cette ligne, et surtout dans nos pays d'oc, le passage d'une économie de chasse et de cueillette à une économie agricole qui se produit vers 5500 avant notre ère, ce passage se caractérise dans nos régions du sud par l'ameublissement du sol à l'arrière. Alors que dans les pays au nord, les pays d'Oï, on s'aperçoit que c'est là, enfin, ce sont des pays qui sont, certes, ils ont longtemps utilisé l'arrière, mais ils sont assez vite passés à la charrue. C'est-à-dire que la charrue serait un instrument mis au point dans les pays de l'Europe, entre, je dirais, la Seine et le Rhin. À une époque où encore les Celtes, les fameux Gaulois, ne s'étaient pas établis dans ces régions qui formeront la Gaule plus tard. Alors, dans nos régions, le labour a été longtemps, et jusque vers 1850, et même au-delà, m'a-t-on dit, le fait de l'utilisation de l'arrière, qui était quelquefois un socle de bois. Et on a des représentations de l'arrière depuis les temps gallo-romains jusqu'à nos jours. Et cet arrière à soc de bois, qui était très différent par le résultat obtenu de la charrue, puisque si la charrue retourne la terre, la renverse, bouleverse le sol pour l'ameublir et l'exposer pendant l'hiver aux effets du gel et de la pluie qui amène une espèce d'éclatement des mottes de terre, qui ameublit la terre donc par l'effet des conditions météorologiques. L'arrière, par contre, si la charrue laboure enfin jusque vers 30 cm de profondeur, l'arrière qui exige autant d'efforts physiques de la part des animaux de trait que de l'individu qui conduit l'arrière, l'arrière ameublit le sol en surface. Elle ne le bouleverse pas. Et l'arrière a été longtemps avec un soc de bois garni parfois d'une pierre taillée, voire même armé d'une pointe en fer. Mais ce qu'il y a d'intéressant au point de vue du sens des techniques de nos ancêtres méridionaux, c'est que ces arrières étaient en fait formés par des arbres qui étaient sélectionnés, émondés, taillés, de façon à ce que le timon et le soc ne fassent qu'un seul élément, ne fassent qu'un seul corps. Le timon représentait le tronc principal et le soc était une branche secondaire qu'on avait formée dans ce but. Et ça me rappelle une petite anecdote dont j'ai été témoin. Un de mes voisins d'en face à Montcuq, dans la vallée de la Négrevieille, André Séval, du Mas de la Combe, m'avait appris une chose, que beaucoup d'arbres sauvages dans nos régions étaient sélectionnés ainsi par les agriculteurs pour faire des manches d'outils, voire même des outils comme des fourches, par exemple des fourches d'un seul bloc. Et un des arbres qui était le plus sélectionné pour ça, c'était le cornouiller sanguin, qui est particulièrement fréquent en Quercy-Blanc. On pourrait aussi utiliser le buis, par exemple. Alors donc, nos ancêtres du Néolithique avaient déjà mis au point une technique qui est encore vivante dans les traditions des agriculteurs carcinoles du 20e et début 21e siècle. Alors la charrue, par contre, est un instrument de l'Europe du Nord, de l'Europe septentrionale. Son nom lui-même vient du gaulois carruca, qui a évolué en occitan en carrugo, alors que l'arrière se dit araire, pour vous donner un exemple simple. Il faut savoir qu'encore au XIIIe siècle, les arrières comme les charrues étaient souvent armés de socs de pierre taillées garnis eux-mêmes de pointes en fer. Ce n'était pas encore le soc de fer que l'on connaît de nos jours. Alors, en faisant des travaux de recherche en faveur d'une production locale qui est le croustillote, je m'étais aperçu que dans nos régions, la charrue n'intervient qu'après 1850. Je vous le disais tout à l'heure. J'ai connu, dans les années 1970, dans la vallée du Bartasek, quand on descend du Cluzel, de la Bastille de Marnac, vers Cahors, en venant de Montcuq, en dessous du lieu-dit de Saint-Rémy, paroisse-mère, j'ai connu encore en fond de vallée, dans les terres très riches, très brun-rougeâtres, très profondes, une famille d'agriculteurs qui labouraient avec les bœufs. En général, ici dans le pays, on se contente d'une paire de bœufs. Dans le Nivernais, au sol très lourd, Rosa Bonheur avait montré, et on le connaissait ailleurs par différents témoignages, que l'on pouvait atteler ou la charrue ou l'arrière à plusieurs paires de bœufs. Alors cette activité de labour au bœuf, à la charrue ou à l'arrière est à l'origine de bien des choses dans nos régions. Le nom même du bouvier, du laboureur, c'est loup bouillé, qui vient du latin boarius, boarius, formé sur le latin boes, bœuf au pluriel. Alors bœuf, c'est bos, au pluriel boes. Le dérivé, c'est boarius. Ça a donné en occitan bouillé, qu'on écrit bêtement boyer, B-O-Y-E-R. Le nom français, c'est bouvier, alors que l'occitan, c'est bouillé. Le nom du bœuf, de labour, c'est loubiou. Dans nos régions, ailleurs, ça sera le bois ou le bao. Le biaunet, c'est le jeune taureau châtré, destiné à devenir un bœuf de labour. Le labourage au bœuf demandait un dressage des bœufs, autant que du laboureur lui-même. On commençait d'apprendre à labourer dès l'âge de 10-12 ans. C'était le grand-père, souvent, qui enseignait à son petit-fils à labourer. C'était tout un art, toute une technique. Il fallait savoir attacher le joug aux cornes des bœufs. Il fallait savoir monter le timon, monter l'âge, attacher tout cela ensemble, le faire tenir. Mon père me disait, mon père charentait cognacé. En cognacé, on laboure plutôt avec les chevaux, mais quelquefois entre les rangs de vignes. Mais pour les grands champs labourés, on fait avec des bœufs. Quelqu'un qui ne savait pas trop bien faire, on voyait quelquefois les bœufs partir devant et la charrue rester derrière. Donc il y avait tout un entraînement. Les jeunes gens de nos régions préféraient apprendre à labourer avec leur grand-père plutôt que d'aller à l'école, ce que nous raconte l'ouvrage sur l'Auzerte. Le taureau s'appelle le loubrau. Bon, la vache, c'est la vache, tout le monde le sait. J'en profite pour vous dire que le plateau des 1000 vaches dans le Limousin, la Imilobacos, ne désigne pas un plateau où il y a beaucoup de vaches, mais où il y a beaucoup de batsos. Et les batsos, en occitan du Limousin, comme dans nos régions, c'est à l'origine d'une famille bats, ou Bache, si vous voulez, ça désigne les sources. Donc le plateau des Mille Vaches, c'est le plateau des sources. Mille étant un vieux radical qui signifie en fait montagne. Bon, pour en revenir à notre problème, l'activité de labourage avec les bœufs, qui est à l'origine de beaucoup de traditions qui concernent surtout les mois de septembre-octobre dans nos régions, les labours de mars étant plutôt le fait des terres limoneuses, riches en lœss, légères, faciles à travailler, de la grande plaine nord-européenne qui va depuis le bassin parisien jusqu'à l'Ukraine et au-delà, les terres noires d'Ukraine. Et ces terres noires, ces terres leucciques, qui sont le produit de dépôts d'éléments, de sédiments d'origine éolienne aux époques glaciaires, lors des grandes époques glaciaires, les alternances de chaud et de froid, détritifiées, si on peut dire, provoquer la formation de sols détritiques qui, emportés par le vent, se déposaient ensuite sous forme de poussière extrêmement riche en éléments fertilisants et fécondants. C'est la même chose qui se passe à travers et par-dessus l'Atlantique. L'Harmattan emporte du Sahara des poussières de différents éléments terrigènes de couleur rouge qui sont emportés ensuite par les alizés et déposés sur la cordillère des Andes. Ils sont à l'origine de la fertilité des sols de la cordillère des Andes, d'où ensuite ces sols sont par le ruissellement emportés vers l'Amazone et déposés au fond de l'Atlantique. Vous voyez un peu le chemin. Ben c'est un peu la même chose, mais à une époque glaciaire pour l'Europe. La grande plaine du nord de l'Europe couverte de glace et de neige, dégagé pendant l'été, voyait son sol emporté par des vents venus du cœur du continent et qui se déposait sur ce qui deviendra plus tard la grande plaine céréalière de l'Europe du Nord et les terres noires d'Ukraine et du sud de la Russie. Bien, alors cette activité de labourage va donner naissance dans nos régions à toute une floraison de savoir-faire, de traditions, de coutumes et de proverbes dont nous allons parler après un petit intermède musical.
Lucas. Chus la canelo. Ae io u Luca Chus la canelo. E los rumios que pasarán, e los rumios que pasarán, prendrán daigo señado. Ae io u prendrán daigo señado, e diran cale mortai si, e diran cale mortai si, acos la paro giano. Cos la paura già no, se ne sanado al paradiso, se ne sanado al paradiso, hasta el hombre sastrado. Se l'hambre sas cabros.
Alors, un des grands principes dans nos régions, c'est de ne pas labourer le sol, de ne pas le travailler, de ne pas le bêcher quand il est encore mouillé par la pluie. Car tant que la terre colle au fer des outils, le fait de travailler le sol aura un effet désastreux, si on peut dire. Cela fera proliférer les boutons d'or et les coquelicots. Je me souviens d'une personne de Saint-Ursis, en Vallée du Lendou, qui venait dans la boutique de mes parents au printemps. Il pleuvait beaucoup, achetait des graines de haricots et autres. Et un de ses voisins la rencontre, il m'a dit « Que veux-tu faire avec ce temps ?»« Bosse la oura et non pas veleu. Tu veux bêcher, tu veux travailler ton jardin ?»« Et non pas peut-être, lui répond-elle. » »« Et qu'il passe un mezzo de fa beni, lupaucos et canroso. » »« Je n'ai pas envie de faire pousser des boutons d'or et des coquelicots. » On considère dans nos régions que travailler un sol mouillé par la pluie, c'est le faire être envahi par des mauvaises herbes, au fond. Alors, d'autres proverbes sont apparus dans la mémoire humaine, que j'ai relevé dans différents opuscules, notamment celui sur l'Ozerte. Un proverbe m'a beaucoup plu. « Bal mai laura amlaiche unos vacos, cam lui bios d'une autre. » Il vaut mieux labourer avec ses propres vaches qu'avec les bœufs d'un autre. On dit d'attelage de labour, « Bio biel fa rego drezzo. » Un bœuf vieux fait toujours une raie droite. Être âgé, du reste, se dira « aure l'edat d'une bio biel ».« Aure ou aber l'edat », alors j'emploie le mot « edat » et non pas le très mauvais terme « atze » qui vient du français « atze » qui est un francimanisme à rejeter. Le bon terme en occitan, c'est « edat », E-D-A-T. Alors « aure l'edat d'une bio biel », c'est être fort âgé. De quelqu'un qui est riche, on dira qu'il a des bios dans l'étable. C'est la forme de une des formes de l'infinitif. On a aure, aber, abre, etc. Ça veut dire avoir. Aure bios en l'establo, avoir des bœufs dans l'étable. Par contre, de quelqu'un qui veut se donner l'air d'être riche mais qui ne l'est pas, on dira om li crei bios en l'establo et li manco l'estaco. On lui croit des bœufs dans l'étable mais il lui manque la tache. On dira également « Lui bios se prenun per laibanos et los homes per la lengo. » Les bœufs se prennent, s'attrapent par les cornes et les hommes par la langue. Et enfin de quelqu'un qui a une belle apparence, qui en impose par sa prestance, qui a un air dominateur, sûr de lui et dominateur, comme aurait dit le général de Gaulle, on dira « Que semblo un brau, il ressemble, il a l'air d'un taureau. » Le brau, c'est le taureau. À Toulouse, la gare de Matobiau, c'est la gare où on tuait les bœufs. Le verbe mata, avec un R à la fin, signifie tuer, et biau, c'est les bœufs. C'est la forme languedocienne toulousaine de ce qui est en carcinol, biau. Alors, les animaux de trait avaient chacun un nom différent, à la fois selon leur aspect, leurs apparences, leur pelage, leur robe, mais aussi selon leur place dans le train de labour. Alors, il semblerait que, mais je n'arrive pas à retrouver ça dans mes papiers, dans mes bouquins, il semblerait que, dans un attelage de labour, si celui-ci était composé de vaches, par exemple, la vache de gauche en tête du train, ou plus exactement celle qui se trouvait à l'intérieur de la courbe lors des tournants, portait le nom de Caueto, d'où à Moncucle ou Camille de la Caueto, le chemin de la Caueto. Mais j'ai trouvé dans mon opuscule fort intéressant sur l'Auzerte une explication. En traitant de ce qu'était le nom qu'on donnait aux animaux de trait, aux animaux de labour, en fonction de la couleur de leur robe, j'apprends que le taureau ou le bœuf, au pelage de couleur roux tirant sur le blanc, s'appelait le caubet. Alors d'ici que caubeto, féminin caubeto, se dise à mon cul caueto, ou caueto, caueto, c'est pas impossible. En tout cas, je donne là une explication sur le nom du Camille de la Caueto à mon cul. Mais mon ouvrage sur l'Auzerte m'apprend que un bœuf dont le pelage était blanc s'appelait loup blanquette. Si le pelage était clair, on l'appelait loup brouquette ou loup braquette. S'il était rouge, ben c'était évidemment loup rutze. Rouge-brun, laurette. Noir, comme la race des vaches de Salers, c'était loup maurel ou loup maurette, d'où le nom de famille Morel. Maurel, ça veut dire celui qui a un teint sombre, un teint bronzé. En bout de sillon, la marge laissée non labourée au bout du champ, et où l'on tournait pour reprendre un autre sillon dans le sens inverse, s'appelle la talbero, d'où le proverbe à la mode dans les années 68 et après 1968, et subre la talbero que se sta la libertà, ou que se trova, ou que es la libertà. C'est sur la marge que se trouve la liberté. Alors, quand on labourait, quand on donc avec le verbe laura, on faisait un sillon. On disait que le verbe c'était enrega, falarego, fuisse larego. Et, chose intéressante dans nos régions, jusque bien avant, dans le 19e siècle, on avait conservé l'habitude, la coutume, vieille technique venue du néolithique, de n'ensemencer une parcelle de terre qu'après trois labours successifs, en sens croisé et inverse, contraire. On disait que du reste, c'est un proverbe qui voudrait que labourer ré contre ré vaille mieux que labourer ré sur ré. Labourer sillon contre sillon vaut bien mieux que de labourer sillon sur sillon. Parce que le premier labour, qui s'appelait la première laurado, on disait que alors, le verbe qu'on employait alors, c'était le verbe pruisendre, qui veut dire fouir, fendre le sol. Le premier labour, donc à l'arrière, avait pour but d'ameublir superficiellement le sol. Quelques temps après, souvent trois semaines après, on faisait un second labour en sens perpendiculaire. Alors, cette seconde laurado, ce second laura, s'appelait brisa, brega, qui signifie émietter, briser les mottes de terre qui prenaient le nom de turres. Turres, qui sont des mottes de terre très dures, que l'on obtient du reste lorsqu'on laboure avec la charrue ou que l'on bêche des terres avec un sol avec une bêche, sont ces mottes très dures que l'on ne peut briser qu'à la sarcle, la huscle ou la husclado. Et alors ce second labour se faisait donc en sens perpendiculaire au premier, en sens croisé par rapport au premier. Et enfin venait le troisième labour, la terzo laurado, le verbe que l'on employait c'était terza, c'était un troisième labour à l'arrière que l'on passait dans le sens inverse opposé au premier labour. Alors cette tradition, cette coutume nous vient du plus lointain des âges. On la connaît par les travaux qui ont été faits sur le néolithique et l'âge du bronze dans toute la Méditerranée. Elle est citée par les poètes, les auteurs grecs anciens. On la retrouve dans la Bible, on la retrouve dans les travaux qui ont été menés par des ethnologues contemporains sur les berbères du Maghreb. Je pense à Gabriel Camps et Jean Servier. Et c'est du reste intéressant de voir à quel point la Bible est un véritable, pour nous, conservateur de tradition méditerranéenne ancienne. Cette tradition, elle est à l'origine de mythes et de rites. Mythes et rites des labours qui sont illustrés dans le vieux pays de Quercy Blanc. Alors certes, ces mythes et ces rites, leur première attestation, c'est évidemment Hésiode, le poète grec de 700 avant notre ère, dans son œuvre bien connue chez les hellénistes, « Les travaux et les jours ». On la retrouve dans l'hymne homérique à Déméter, on la retrouve chez les agronomes latins, on la retrouvera ensuite jusque dans les auteurs, les agronomes, les économistes de l'Europe médiévale. Alors on peut penser évidemment à Walter de Henley, on peut penser à Olivier de Serres, on peut penser à d'autres auteurs tels que Pietro de Crescenzi dans son livre « Commodium Ruralium ». Alors, c'est le livre des richesses du monde rural, si vous voulez, des ressources du monde rural. Alors, on la retrouve très bien exposée dans l'ouvrage d'un auteur de l'Andalousie encore musulmane. Il a écrit vers 1200 de notre ère, donc à la fin de la domination musulmane en Andalousie, un livre de l'agriculture. Son auteur s'appelle Ibn al-Awam. L'ouvrage, c'est Kitab al-Filaha, livre de l'agriculture fort connu et qui reprend bien tout l'ensemble de la question qui nous expose comment étaient conçus, pratiqués, suivis et les labours et les semailles dans toute la Méditerranée et l'Europe méridionale ancienne. Vous retrouvez cela également dans d'autres ouvrages d'histoire du monde rural, notamment un ouvrage récent sous la direction de Jean Guilaine pour une archéologie agraire chez Armand Collin. Il faudrait lire Chanoine Saul, il faudrait lire d'autres auteurs. Alors, ces recherches d'historiens et d'historiennes de l'économie et de l'agriculture débouchent sur l'explication des origines, des mythes et des rites, des labours, dans nos régions, notamment en vieux pays de Quercy-Blanc. Après une petite interruption, un intermède musical, je vais vous en parler plus abondamment.
Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Car des voleurs, dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'eau. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça de là partout, si bien qu'au bout de l'an il en rapporte davantage. D'argent plein de cachets, mais le père fut sage de leur montrer avant sa main que le travail est un trésor.
Alors, je voudrais maintenant traiter un sujet, un cœur du sujet qui m'intéresse. C'est les mythes et rites des labours en vieux pays de Quercy-Blanc, Lucarsi Albenc. C'est donc à une enquête par déduction rétroactive, régressive, que je vais me livrer. Mon but, c'est de reconstituer, et je me demande par quelle méthode et comment y arriver, je vais essayer de reconstituer les systèmes de penser le monde complètement oubliés à partir de ce qui nous en reste, des bribes, des vestiges qui sont méconnus, fossilisés dans les mémoires et dans le patrimoine, notamment matériel. Voir qu'est-ce qui nous reste à travers ces bribes et ces fossiles, toute une société, une civilisation, une culture, un système de penser le monde complètement oublié. Et alors pour ça, nous avons en Pays de Moncuq un exemple qu'il faut travailler et étudier profondément. C'est dans l'église Saint-Pierre-aux-Liens, faite le 1er août, de Saint-Donès. Alors Saint-Pierre-aux-Liens, c'est pas rien, c'est une date du calendrier catholique latin qui succède à une vieille fête celtique à date lunaire, donc mobile, mais vieille fête celtique qui était celle de l'abondance des récoltes et de par l'union du ciel et de la terre. Alors à Saint-Donès, nous avons, quand on entre par la porte majeure actuelle, la porte est, la porte orientale, percée dans le mur de l'ancien chœur, dans l'ancienne abside, porte qui était orientée, puisqu'on entre par l'ancien chœur, est orienté très exactement vers le point où le soleil se lève le matin de la Saint-Pierre-aux-Liens, 1er août. Saint-Donès, c'est mythiquement ou légendairement, dans la croyance locale, ce serait la forme d'Aunès, du latin Dionysius, le grec Dionysios, Saint-Denis de Paris. Bon, par des recherches que j'ai pu faire de façon plus approfondie, il semblerait qu'en fait, d'Aunès soit tout simplement la forme occitane d'un gaulois latinisé Dagonensis, sur la base gauloise Dagos, qui veut dire bon, et ça désigne le dieu maître de toutes les abondances. Alors que Dionysos, Saint-Denis de Paris, par son nom et par bien des éléments de sa vie légendaire, semble bien succéder, du moins récupérer les fonctions du Dionysos grec, du dieu grec, entre autres, de la vigne et des vendanges, le dieu grec de toutes les ivresses, des ivresses libératrices. Sa fête, du reste la fête de Saint-Denis de Paris, le 9 octobre, se situe en pleine période des vendanges. Et bon, le nom de ses deux compagnons associés, Éleuther et Rusticus, reprennent les épithètes du dieu grec Dionysos dans l'Antiquité. Rusticus Georgios et Éleuther, c'est Eleutheros, le libérateur. Alors, dans l'église de Saint-Denis, pour en venir au sujet principal, vous entrez par la porte est, vous avez devant vous, vous entrez par l'ancien chœur, vous avez devant vous, de part et d'autre, deux colonnes supportant des chapiteaux. En fait, ces colonnes sont appuyées contre le mur plutôt qu'elles ne portent quelque chose. Elles semblent porter l'arc triomphal. Et les chapiteaux sont intéressants parce que, notamment celui de droite, celui qui est donc côté nord, nous montre, alors des deux côtés, on a des rites d'accession à la royauté dans le monde gaulois de la fin de la période indépendante. Bon. Alors, il faut savoir que ces chapiteaux ont été datés par un de mes amis professeurs d'archéologie à l'université de Cambridge. Ils ont été datés du 2e et du 3e siècle de notre ère. Ce sont des chapiteaux de facture rustique gallo-romaine. Ils devaient être inclus dans un bâtiment gallo-romain abandonné, dont les éléments ont été récupérés au XIIe siècle lorsqu'on a bâti l'église de Saint-Denis. Mais ils sont beaucoup plus anciens que l'église elle-même. Et ils reprennent très curieusement au 2e, 3e siècle de notre ère, en pleine domination romaine, ils reprennent par leur motif ce que nous avons avoir été les rites d'accession à la royauté chez les Celtes, chez les Gaulois. Royautés qui ont disparu dans nos régions, chez les peuples gaulois, au 2e siècle avant notre ère. Il faut savoir que le grand-père de Vercingétorix a été le dernier roi des Arvernes. Lucterius du Quercy devait être certainement le dernier descendant des anciens rois des Cadourques. Et alors donc nous avons là, avec les sculptures de Saint-Denis, la preuve, l'indice du maintien pendant plusieurs siècles, alors que la domination romaine était bien établie, du maintien de la mémoire historique, de la mémoire des faits institutionnels, si vous voulez, des institutions, sous lesquelles vivaient les habitants de l'actuel Quercy avant même la conquête romaine. Alors, il y a parmi ces motifs une scène extraordinaire. C'est une scène de labour, à l'arrière, avec des bœufs. On voit un laboureur qui guide les bœufs à l'aide d'un bâton, si on peut dire, un baculus, ou peut-être même un bâton écoté. Or, ce laboureur a une posture assez intéressante, elle est bien visible et elle n'a pas manqué d'être remarquée par les gens que j'avais amenés en visite dans l'église de Saint-Denis. Le laboureur est ce qu'on appelle pudiquement ityphalique, c'est-à-dire qu'il a le sexe en érection. Et il semble s'apprêter à avoir des relations sexuelles avec un des bœufs ou avec une vache, on n'en sait rien. C'est extraordinaire, pourquoi ? Parce que ce type de scène, on le connaît. Dans des figurations gravées sur la pierre, en plein air, en Italie du Nord, dans les vallées alpines, notamment dans la vallée qu'on appelle la Valle Camonica, on le retrouve dans la Vallée des Merveilles, en comté de Nice, on le retrouve en Scandinavie, on le retrouve même sur des gravures du Sahara, à l'époque où le Sahara était vert. On le retrouve partout où, à l'époque qui correspond au millénaire du Néolithique et de l'âge du bronze, les populations s'adonnaient à la production de richesses agroalimentaires en exploitant la terre, en exploitant le sol, par des techniques agronomiques, notamment par le labour à l'arrière. Le labour à l'arrière représentait mythiquement l'union du ciel et de la terre. Quand un laboureur pensait au labour de printemps qui devait être célébré par l'empereur de Chine pour faire démarrer la saison agricole. Même chose dans l'Afrique des Grands Lacs, où les rois thaumaturges et les rois charismatiques d'Ouganda devaient accomplir un labour rituel pour faire démarrer la saison agricole. C'était la même chose dans l'Europe de l'âge du bronze et du néolithique. Certains personnages étaient particulièrement qualifiés par un labour rituel faire recommencer la saison agricole. On retrouve ça chez les berbères du Maghreb actuel, où une tradition veut que pour que la récolte soit abondante, des époux légitimement unis selon les règles du Coran et selon le Kanoun, les traditions berbères, doivent s'unir dans les sillons fraîchement ouverts pour assurer la fécondité, la fertilité de la récolte future. On connaît des cas que j'ose à peine décrire où la chose se fait de façon plus brutale et par les mâles seuls de la communauté. Alors, j'en dis pas plus, vous imaginez ce qu'ils font. Il semblerait donc que dans ces traditions et ces coutumes de toute la Méditerranée ancienne, l'émission de sperme par les mâles de la tribu dans les sillons fraîchement ouverts provoque la fécondité et l'abondance des récoltes futures. En Égypte, c'est un peu différent, parce qu'en Égypte, le ciel est féminin et la terre est masculine. La terre Geb est mâle. Et le pilier Djed, qui représente l'axe du monde, au fond, c'est tout simplement le pénis en érection de du dieu terre, du dieu Geb. Ce pilier en érection, on le trouve où ? Dans l'Europe occidentale, de l'âge mégalithique. Les menhirs sont tout simplement des espèces de piliers axe du monde. Les Gaulois, qui ignoraient totalement ce qu'étaient ces menhirs, les ont appelés des cantalos. Ça veut dire des pierres dressées. À Montcuq, le Bari dels Cantals et le Cantu de Cantar, qui était place du plat, à l'ouest du chevet de la primitive église Saint-Cernin, occidentée. À Montcuq, donc, le Bari des Cantals et le Cantu de Cantar désignaient, le Bari c'est le quartier, et les Cantals c'était tout simplement des piliers dressés. Ça faisait donc, si vous voulez, de Montcuq, du site même de Montcuq, un lieu où on pouvait entrer en communication avec le ciel et avec la terre par l'intermédiaire d'axes pivots du monde. Or, cela se produisait quand, essentiellement, semble-t-il, à la saison des labours. Il ne faut pas oublier que le primitif Saint-Patron de Montcuq, c'est Saint-Cernin, fêté le 29 novembre. Il est celui qui a été martyrisé par le taureau. Taureau qui est un animal indomptable. Mais par son nom latin, Saint-Cernin, en occitan Sadurni, Sarni, son nom latin c'est Saturninus, qui est formé sur Saturnus. Or Saturnus, c'est le vieux dieu des semailles, de l'abondance des récoltes, c'est le dieu de l'âge d'or de toute la vieille Méditerranée occidentale. Il est l'équivalent du Dagda celtique, dont le nom Dag a donné Dagonensis, d'où le nom de Daunès, Saint-Donès. Donc les sculptures de Saint-Donès nous montreraient le très ancien enracinement local de rites et de mythes de labour connus en Europe et en Méditerranée depuis au moins 6000-5500 avant notre ère. Je ne veux pas en dire plus, mais il faut savoir que cette sculpture est associée à une autre qui nous montre le triomphe du Jupiter gaulois, le Taranis, sur l'ancien dieu maître des pluies et des sources, l'ancien dieu devenu le démon qui retient les eaux souterraines et provoque les sécheresses. On a donc là, si vous voulez, cette idée que, à travers les sculptures de Saint-Donès, il y a un lien entre les dieux célestes, maîtres de l'abondance par l'abondance des pluies, et ceux maîtres des eaux souterraines d'où naissent les sources. Mais cela, les rites qui provoquent en quelque sorte l'abondance par le retour des pluies et la remontée des sources, sont aussi ceux qui sont des, comment dirais-je, que l'on peut invoquer, rencontrer, que l'on peut dont on peut se rendre maître, des dieux que l'on peut en quelque sorte dominer par des rites de théurgie, qui sont des dieux maîtres des labours et des semailles. Il semblerait donc que à Saint-Donès, en ce mois d'octobre, qui est aussi celui des vendanges, mais aussi celui des labours, on ait conservé longtemps le souvenir de mythes complètement oubliés par ailleurs. Ce sont ces sculptures conservées par miracle. Le bâtiment gallo-romain dont elles ont été extraites était abandonné depuis des siècles lorsque les gens de Saint-Donès ont récupéré des éléments pour bâtir l'église. Et ils se sont servis de ces chapiteaux qu'ils ont trouvés sur place. On a donc là, si vous voulez, par un miracle assez extraordinaire, le maintien à travers l'étude de ces motifs sculptés de ce qu'a été toute une vision du monde, de la saison d'automne, des labours et des semailles. Alors, ce qui apparaît particulièrement vrai, c'est le fait que dans ce cas-là, ce qui est frappant pour les populations, c'est le fait... Qu'est-ce que c'est au fond ? C'est une symbolique. C'est la symbolique du bœuf. À travers le bœuf, c'est celle du taureau. Or, le taureau, qu'est-ce que c'est qui le marque ? Qu'est-ce que c'est qui le symbolise dans toutes ces cultures de la Méditerranée ancienne, notamment dans les glyphes, les pétroglyphes, les glyphes à l'air libre, sur pierre, de la vallée camonique, de la vallée des merveilles, de la Scandinavie, du Proche-Orient ? Le taureau est symbolisé par ses cornes. Au fond, les cornes du taureau sont l'équivalent de la hache et du soc de l'arrière. Le taureau, c'est celui qui fend le sol, c'est celui qui laboure. Et l'homme qui dirige un train de labour constitué de vaches, c'est celui qui prend le rôle du taureau, si vous voulez. Il est celui qui pousse les vaches vers l'avant et qui fend le sol. D'où le fait qu'à Saint-Donès, ce laboureur soit représenté ityphalique. Alors, toutes ces données complètement oubliées de nos jours, évidemment, sont aussi à l'origine de beaucoup d'autres traditions et coutumes fort intéressantes, notamment bon, pour tout ce qui est des semis et des techniques agricoles. Pour en savoir plus, je vous renverrai à différents ouvrages, dont j'ai la liste sous les yeux, mais on n'en finirait plus. Lisez au moins le vieux Quercy du chanoine Sol et le très épais fascicule sur Lauzert et son canton, publié sous la direction donc de Christian-Pierre Bédel, aux éditions, je pense que c'est la Talbero, c'est la collection Alcantou. Je crois qu'on le trouve à l'office de tourisme de Lauzert. Il y avait beaucoup d'autres choses à dire, mais bon, le temps nous est compté. Merci bien. Alors portez-vous bien, à la prochaine fois, et j'espère que de mon côté, ça ira mieux. Voilà, au revoir.
L'amor che te spero, guardo la verdad. Cal segre l'uriero, lucros del balat. Grano la miserio con fluris lublate.
Essi la talvero, che es la libertad. L'amor che te spero, guardo la verdad. Cal segre l'uriero, lucros del balat. Grano la miserio con fluris lublate.
Este lo se l'uno, ne per en la fin. Ne per en pas uno, cerca l'ucamin. L'usse tu sembruno del sera al matin. La bestia per uno più di sto canie.
Este lo serino, ne per en la fin. Ne per en pagino, cerca l'unca mi. L'usse tu sembruno del sera al matin. La bestia per uno più di sto canie.
E sui la tallero, che è la libertà.
Che vengo
qua. Tu vieni l'uriero, porto la verità. La vita te spero, de cross en balat.
Che vengo qua.
Tu mi sa miserio con grano rugla. E sui la tallero, che è la libertà.
Che vengo qua.
Tu vieni l'uriero, porto la verità. La vita te spero, de cross en balat.
Che vengo
qua. Tu mi sa miserio con grano rugla.
Che vengo pas, che vengo da gran. sur un mio terro.
Say.